Bonjour, nous sommes le lundi 18 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
La semaine dernière, l'Écho et de Tate décernaient les prix Changemakers à des entreprises qui font la différence en termes de durabilité. Et ce matin, je suis avec l'un des gagnants du concours, double vainqueur même dans la catégorie des grandes entreprises, mais aussi prix du public. Mon invité est donc le CEO de BioBest, une entreprise campinoise spécialisée dans les produits phytosanitaires biologiques. Bonjour Jean-Marc Van Doorn.
Bonjour.
Une réaction déjà pour ce double prix ?
Ben, nous sommes bien évidemment très fiers d'avoir remporté aussi bien le prix du jury que le prix du public, ce qui signifie quand même que aussi bien le public que les spécialistes comprennent l'impact que nos produits ont au niveau de la durabilité, mais aussi au niveau de la santé pour l'agriculteur et le consommateur.
Alors on va revenir sur l'engagement durable évidemment de BioBest, mais aussi sur la politique agricole européenne de plus en plus démantelée sous la pression des agriculteurs notamment. Et puis il sera aussi question de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Je suis Laurent Fabry, Jean-Marc Van Doorn est mon invité. Bienvenue dans les briefs.
Le brief, c'est info, dès 7h.
BioBest est né dans les années 80. Au départ, il s'agissait d'un élevage de bourdons pour polliniser des cultures de tomates sous serre. Depuis, les bourdons ont fait des petits, si on peut dire. Ils ne représentent plus que 7% du chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, BioBest vaut 1,5 milliard d'euros, compte 2750 employés répartis dans 22 succursales, plus de 70 pays distributeurs à travers le monde. Jean-Marc, BioBest s'est donc diversifié dans le secteur des phytosanitaires bio. C'est un secteur d'avenir ou bien est-ce que cela reste une niche finalement ?
Non, certainement pas. Effectivement, au début, c'était plutôt une niche. Tout a commencé avec la pollinisation. Ces bourdons généraient un rendement de plus de 20% pour les producteurs de tomates, qui très vite étaient intéressés à trouver des alternatives pour les produits chimiques, parce que s'ils appliquaient les produits chimiques, ils tuaient les bourdons. Pour nous, c'est un peu le début du contrôle biologique. Et donc, au début, c'était plutôt dans cette niche de l'horticulture. Mais aujourd'hui, aussi dans les champs ouverts, les produits se sont développés, sont devenus beaucoup plus efficaces. Dans les pays où les biopesticides, hein, donc ce sont des produits, des champignons, des virus, des bactéries, dans ces pays où ces produits sont déjà approuvés, la part de marché augmente très vite, et c'est surtout le Brésil qui prend le lead en champ ouvert dans le contrôle biologique.
Votre croissance vient donc de la diversification, mais aussi d'acquisition d'entreprises engagées dans la même philosophie que vous. L'américain BioWorks, par exemple, ou plus récemment le brésilien Biotrop. Vous revenez d'ailleurs tout juste d'Uruguay, où vous aviez une réunion commerciale. C'est indispensable d'avaler d'autres acteurs pour rester dans la course au niveau mondial ?
Ben, nous sommes dans un secteur en pleine consolidation. Hein. Donc en fait, il a commencé à naître il y a 30-35 ans, avec la venue des bourdons. Aujourd'hui, beaucoup de ces sociétés, ou les propriétaires de beaucoup de ces sociétés, se posent des questions sur l'avenir. Donc c'est vraiment une période de consolidation. On a fait déjà plus que 15 acquisitions dans plutôt le secteur de l'horticulture, où on a consolidé le marché. Aujourd'hui, on sent très bien qu'on doit aussi passer au marché au plein champ. Bon, alors on a deux choix. Ou bien on développe toute une gamme de produits, mais ça prend énormément de temps, énormément de coûts. Ou bien on investit dans des sociétés existantes. Et donc, quand Biotrop nous a contactés pour dire, écoutez, nous sommes à vendre, ben, c'était une opportunité unique qui va accélérer tout le processus et la croissance de BioBest et du secteur biologique.
Alors les entreprises comme BioBest prouvent que les acteurs du durable peuvent aussi finalement jouer sur la scène internationale. Est-ce que durabilité et big business finalement c'est assez compatible ?
Tout à fait, je dirais même c'est tout à fait nécessaire. Si une société qui a développé une société durable n'arrive pas à concurrencer au niveau international avec ces grands acteurs, je crains qu'elle n'aura pas beaucoup de succès. Donc c'est même une nécessité à mon avis.
La colère des agriculteurs, elle secoue le continent européen depuis plusieurs semaines maintenant. Dimanche encore, le secteur agricole le manifestait à Madrid. Jean-Marc, vous comprenez la grogne des agriculteurs ?
Si je regarde juste notre secteur, je comprends déjà très bien leur frustration. On voit que l'Europe a beaucoup d'objectifs, a beaucoup d'idées, et c'est bien. Il faut avoir des objectifs et des bonnes idées, mais il faut aussi les exécuter. Et c'est à ce niveau-là que l'Europe est très très lent et très inefficace. Juste dans notre secteur, donc on veut réduire de 50% l'utilisation de produits chimiques, mais pour faire approuver les alternatifs, les produits biologiques. Ben aujourd'hui, ça prend jusqu'à 10 ans. Donc, si pour 2030, on veut réduire de 50%, on n'y arrivera déjà pas. Et c'est là où l'Europe manque un peu d'initiative, où est beaucoup trop lent. Et donc, il y a que des règles, il y a que d'administration, de contrôle, mais pas des mesures positives. Et donc, dans notre secteur, je comprends déjà très bien leur frustration.
L'Europe a récemment renoncé à réduire de moitié l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture d'ici 2030. C'était pourtant l'une des pierres angulaires de la stratégie de la ferme à la table. Jean-Marc, est-ce que l'Union européenne est trop frileuse à ce sujet finalement ?
Il faut un peu comparer ça aux antibiotiques. Nous sommes convaincus qu'on aura besoin des produits chimiques et encore longtemps pour certains problèmes très spécifiques, mais il y a de plus en plus de résistance, de problèmes de résistance à côté des problèmes de durabilité et de santé pour l'utilisateur et le consommateur. Donc, il faut avoir ces objectifs, mais nous sommes convaincus que si l'approbation de produits biologiques est facilitée et qu'il y aura de plus en plus de produits disponibles, de bons produits disponibles sur le marché, que l'agriculteur même va prendre l'initiative de bouger vers ces produits biologiques. Donc, je me fais pas trop de soucis si c'est 50% de réduction ou 30%. On va y arriver si on a les bonnes solutions. Et on a les bonnes solutions. Les produits sont là. Ils sont juste pas approuvés en Europe. Ils le sont dans d'autres pays, aux États-Unis, au Brésil, mais malheureusement pas encore en Europe. Là où l'Europe doit investir, c'est à faciliter ces procédures d'approbation. Et c'est ça qui est malheureux, parce que tout le monde se concentre sur cette renonciation à réduire de 50%. Mais dans cette même régulation, ils avaient déjà prévu de faciliter aussi l'approbation des produits biologiques. Et donc ça aussi a été mis de côté, et c'est plutôt ça qui nous frustre que le fait que ce n'est plus 50% ou 30% ou 0%, parce que ça va venir de toute façon.
Mais les agriculteurs européens pointent aussi des distorsions de concurrence sur certains usages de pesticides qui sont interdits en Europe mais pas ailleurs. Comment est-ce qu'il faut se positionner alors ?
C'est vrai qu'il reste certains pays où certaines matières actives chimiques sont encore toujours autorisées. Mais je pense que pour le marché européen, l'impact n'est pas si grand que ça. Nos acheteurs ici, nos acheteurs européens, les supermarchés, le secteur alimentaire, ne peuvent de toute façon pas se permettre que ces matières actives soient retrouvées sur leurs produits. Et donc, du coup, les producteurs étrangers qui veulent exporter vers l'Europe ne vont pas pouvoir utiliser ces produits non plus. Au contraire même, je vois surtout qu'à l'étranger, la croissance de l'utilisation de produits biologiques évolue beaucoup plus rapidement qu'en Europe. Pour vous donner un chiffre, il y a 10 ans, le chiffre d'affaires de BioBest était 80% en Europe, 20% en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Et c'est pas parce que l'Europe a diminué, non. L'Europe va juste beaucoup plus lentement que le reste du monde.
Vladimir Poutine a été réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin selon les résultats quasi définitifs d'une présidentielle sans surprise puisque sans opposition. Le maître du Kremlin, qui est au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a récolté plus de 87% des suffrages selon l'agence officielle russe RIA Novosti, citant la commission électorale. Il s'agit de son meilleur résultat. Malgré donc la guerre en Ukraine qui s'enlise et des libertés de plus en plus restreintes, le maître du Kremlin peut compter sur une popularité bien réelle dans le pays. Pour cette présidentielle, la veuve du détracteur numéro 1 de Vladimir Poutine, Yulia Navalnaya, avait appelé ses partisans à se montrer en nombre en allant tous voter au même moment, à midi, dimanche, contre le maître du Kremlin. Alors par endroits à Moscou comme à Saint-Pétersbourg, des queues importantes se sont formées à l'heure dite, mais devant d'autres bureaux de vote, l'affluence ne semblait pas particulièrement élevée. Jean-Marc, pour les prochaines élections européennes, on prévoit encore une montée des extrêmes. Est-ce que ça ne risque pas d'alourdir encore le travail de l'Union européenne finalement ?
Personnellement, évidemment, ça me préoccupe évidemment. Mais au niveau du business, je crains également que ça ne va pas accélérer les processus. Bon.
Cette semaine, l'agenda des événements à suivre est particulièrement chargé. En Suisse, mardi, l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU, présentera son rapport sur l'état du climat mondial en 2023. Cela risque d'être édifiant. Ce mardi toujours, on attend une décision de la Banque du Japon. Elle est pour l'instant la seule banque au monde à avoir toujours une politique monétaire ultra accommodante avec des taux directeurs négatifs. Mais cela pourrait changer. Le lendemain, mercredi, ce sera au tour de la Banque Centrale Américaine de se réunir pour parler politique monétaire. Et puis jeudi, s'ouvre à Bruxelles un grand sommet sur l'énergie nucléaire organisé par l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, Jean-Marc, vous qui êtes entrepreneur, qui œuvre pour l'environnement. Et quelle est votre vision sur le nucléaire ?
Bon, je suis pas un spécialiste dans la matière, mais pour moi, ça ressemble, tout ce qui s'est passé en Belgique au niveau du nucléaire, ça ressemble de nouveau très fort à ce qui s'est passé pour les produits phytosanitaires. On a des principes et on essaye d'interdire, on essaye de surtout se concentrer sur le côté négatif, hein, l'interdiction de l'utilisation d'énergie nucléaire, sans se poser la question, est-ce qu'on est prêt avec les alternatives. Et donc, si on pense qu'une technologie n'est plus actuelle, il faut surtout investir dans ces alternatives et non pas seulement interdire la vieille technologie même.
Et chez BioBest, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ?
Nous offrons effectivement des solutions pour assister les producteurs avec des systèmes qui vont observer dans les cultures, observer, identifier les ravageurs et les maladies, et avec l'aide de l'intelligence artificielle, faire des prédictions et même proposer des interventions.
Parce qu'en termes de durabilité, l'intelligence artificielle présente aussi son lot de défis, notamment en ce qui concerne les ressources en eau. Alors l'eau et l'intelligence artificielle, on voit peut-être pas tout de suite le rapport, mais écoutez les explications de notre spécialiste de l'intelligence artificielle, justement Maxime Samin.
L'explication est très simple en fait, parce que sans eau, les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT par exemple ne peuvent simplement pas exister. Parce que pour fonctionner, elles ont besoin d'une puissance de calcul qui est considérable et qui est faite dans des data centers dans lesquels on retrouve des serveurs qui chauffent et parfois surchauffent, et donc il faut les refroidir avec de l'eau. Et selon une récente étude de l'Université de Californie, la demande en intelligence artificielle va entraîner une augmentation des prélèvements d'eau de 4,2 à 6,6 milliards de mètres cubes d'ici à 2027. Et on voit déjà en fait les premiers signes de cette augmentation. Rien que pour l'année 2022, qui est la dernière période pour laquelle on a des chiffres, Microsoft a augmenté sa consommation d'eau de 34%, Google de 22% et Meta de 3%. Et comme l'usage de l'intelligence artificielle générative a été bien plus important en 2023 avec l'explosion d'outils comme ChatGPT, il faut s'attendre à une explosion aussi des chiffres pour les années suivantes.
Alors pour concilier développement technologique et écologie, il faudrait donc objectiver concrètement l'impact de l'IA sur l'environnement et essayer ensuite de le limiter. Et si le sujet vous intéresse, eh bien allez donc jeter un coup d'œil sur l'article de Maxime dans l'écho à ce sujet. Je vous glisse le lien dans les notes de l'épisode. Hier, l'Union européenne a signé un accord de partenariat de 7,4 milliards d'euros pour soutenir l'économie égyptienne et limiter les flux migratoires. Une délégation européenne avec à sa tête la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le premier ministre belge Alexander De Croo et quelques autres dirigeants européens ont été reçus par Abdel Fattah al-Sissi au palais présidentiel. L'Union européenne veut accroître sa coopération avec l'Égypte dans le secteur du commerce et de l'énergie, en particulier du GNL, pour s'affranchir davantage du gaz russe. L'objectif est aussi de renforcer le partenariat dans le domaine de la sécurité et du contre-terrorisme. Mais ce soutien économique est aussi une manière de monnayer, d'externaliser la gestion de la crise migratoire, comme cela avait été fait avec la Turquie, ce qui fait bondir les ONG qui dénoncent la dérive totalitaire de Al-Sisi. C'est la fin de ce brief. Merci Jean-Marc Van Doorn d'avoir été mon invité aujourd'hui.
Et merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Et puis merci à Ondine Nowerès qui était à la préparation de ce brief. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao.